Gloire à Dieu, ici le pasteur Joe Springs et je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. On va passer du bon temps ensemble dans la parole de Dieu. On est toujours dans le chapitre 3 avec le thème « Le Dieu 3x5 ». Jusqu'à présent, nous avons vu « Il y a un seul Dieu ». Nous avons également été exposés au tout début sur la triunité de Dieu, donc Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on était rendu au texte dans Actes chapitre 10 et le verset 38, où nous lisons « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, encore une fois ici, nous voyons les trois personnes dans ce texte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous allons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13, il est écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc, encore une fois, nous voyons les trois personnes ici, les trois personnes de la Trinité. Éphésiens 2, chapitre 18, il est écrit « Car par lui, en parlant de Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc, gloire à Dieu, nous avons compris jusqu'à présent la triunité de Dieu ou Dieu en trois personnes. Comme on a dit l'autre fois, c'est important pour nous de recevoir cette connaissance par la foi, pas simplement en disant « bien, j'ai tout compris sur Dieu et alors, puisque je comprends tout et je peux tout expliquer et parce que ça fait du sens, bien là, je peux relâcher ma foi et croire en ce Dieu-là. » Non, on croit en Dieu parce que c'est écrit, tout simplement. L'unité composée de Dieu. Là, une des choses qu'on veut faire, c'est vous aider à comprendre quand même certaines choses au sujet de Dieu. Parce que oui, on accepte par la foi, mais le Seigneur nous a quand même permis de comprendre certaines choses à ce niveau-là. Donc, Elohim, le mot ici dans l'hébreu, on va retrouver dans Genèse chapitre 1 et le verset 1 à 2. Je vais vous lire le texte. « Au commencement, Dieu, ou Elohim, créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dans ces textes hébreux, le mot « Dieu » ou, dans ce cas ici, « Elohim », c'est la forme plurielle du nom de Dieu. « El » égale singulier, plus « im », si on veut, égale pluriel. Donc ici, nous avons « Elohim ». Donc ça, c'est important. Comprendre ici dans Genèse 1, verset 1 à 2, « Au commencement, Dieu », ici Elohim, la forme plurielle du nom de Dieu. C'est important ici de comprendre ça. On continue avec Akkad, ici dans Deutéronome, chapitre 6 et le verset 4, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Ce verset en hébreu, « Shema Israël, Yahweh Elohim, Akkad Yahweh ». Akkad égale 1, Akkad indique une unité composée et non singulière. Donc, Akkad indique une unité composée et non singulière. Illustration. Jean-Yves, un nom composé, égale un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Comprenez cela. Donc, nous aussi, nous sommes d'une certaine façon une personne, oui, certainement, nous sommes une créature, mais composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ok? Donc, si nous retrouvons Jean-Yves comme exemple, comme étant un nom composé. C'est quand même une façon simple de vous expliquer ça, mais juste pour vous aider un peu à comprendre que oui, un Dieu, il y a un seul Dieu, mais composé de trois personnes. Dans le livre « Ce que la Bible enseigne » par R.A. Torrey, nous lisons ses explications suivantes, et j'ai trouvé ça bon de vous les partager. Le mot hébreu traduit par « un seul » dans ces passages dénote une unité composée, non une unité simple. Genèse 2, 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, « Voici, ils formeront un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Ici, nous voyons, bon, une seule chair, un seul peuple. Donc, une des choses, si nous comprenons, dans un peuple, même si c'est un seul peuple, nous comprenons qu'il va y avoir une diversité de personnes dans ce peuple-là. Pareillement, une seule langue, ok, on comprend ça comme étant une seule langue, mais l'Éternel dit, voici, ils formeront un seul peuple et tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc ici, un seul peuple composé de plusieurs personnes et une seule chair, mais pourtant il y a l'homme et sa femme. Donc deux personnes dans une seule chair. Nous trouvons un emploi similaire du mot « un seul » dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Donc ici nous voyons « j'ai planté ». C'est l'apôtre Paul qui parlait. Apollos, c'est un autre prédicateur, et Dieu. Nous voyons trois personnes ici, mais qui sont un dans cette mission-là. 1 Corinthiens 12, verset 13. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et pareillement, bon, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bon, ici, encore une fois, un seul corps, mais composé de plusieurs personnes. Dans le corps de Christ, tous ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, bien, sont greffés au corps de Christ, font partie du corps de Christ, mais pourtant, il y a plusieurs personnes dans ce corps-là. OK? Donc, on commence à comprendre un petit peu ici, selon ces versets-là, que bon, oui, un seul Dieu est possible étant composé en trois personnes. Dans Jean, chapitre 17, verset 22 à 23. Il est écrit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc ici, encore une fois, on parle du corps de Christ, un corps composé de personnes. Dans Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, tous vous êtes un. » En Jésus-Christ. Encore une fois, ça revient, on parle ici du corps de Christ. Le mot le plus fréquemment employé pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament est sous la forme plurielle. Dieu emploie des pronoms pluriels en parlant de lui-même. Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc ici, nous voyons l'évidence à ce moment-là dans Genèse 1, verset 26, et maintenant dans Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Remarquez ici, encore au pluriel, « l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dans Ésaïe 6, 8, « J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je réponds, « Me voici, envoie-moi. » Donc, encore une fois, nous voyons ici la pluralité dans notre Dieu, dans le Dieu de la parole de Dieu. Difficile à saisir, mais si vous trouvez cette première présentation un peu compliquée, ne perdez pas espoir. Fixons nos yeux dans la Sainte Bible, la lumière sur notre sombre sentier. Sachez que nous ne pourrons jamais saisir l'Éternel avec l'intellect. Nous croyons simplement ce qu'il a dit de lui-même dans les Écritures. Quand nous luttons pour tout comprendre, nous embarquons dans un chemin rocailleux qui, historiquement parlant, a mené aux hérésies multiples sur notre Dieu. Nous acceptons le rapport biblique par la foi. OK, donc jusqu'à date, comme je vous ai expliqué depuis le début, lorsque nous avons commencé ce chapitre sur notre Dieu trois fois saint, nous comprenons ici que nous devons saisir ce Dieu-là par la foi. Mais quand même, nous avons certaines choses qui nous aident à comprendre la pluralité de Dieu selon plein de versets que nous venons de lire. Mais toutefois, même si ce n'est pas 100% évident là, pour nous, même si ça cause peut-être un certain défi, bien c'est normal parce que nous parlons du Dieu créateur de l'univers et puis c'est normal de le trouver un peu compliqué à comprendre parce que c'est impossible pour nous de tout comprendre, de tout saisir avec notre petit cerveau d'être humain. Dieu le Père. Maintenant, nous allons étudier Dieu le Père. Et souvent, dans vos Bibles, vous allez y retrouver comme étant présenté sous le nom l'Éternel. Dans Malachie 3, verset 6, il est écrit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans Jean 5, verset 26, « Le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, ici, nous parlons du Père et nous parlons de l'Éternel. Nous parlons du Père. Le nom de Dieu maintenant. Nous allons parler du tétragramme. Ah, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est ça, le tétragramme? J'explique ici. Nous avons ici les quatre consonnes. Y, H, W, H. Le nom de Dieu d'Israël et de Juda apparaît plus de 5000 fois dans la Bible hébraïque sous la forme du tétragramme, c'est-à-dire YHWH. Ce nom est aussi attesté sous une forme incomplète, Jah, dans un grand nombre d'anthroponymes. Il provient de la racine hébraïque HWH, HYH, verbe qui signifie être. Ici, la source de ce texte est Wikipédia. L'explication du tétragramme par la Bible elle-même se retrouve dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Ensuite, au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. » Ici, vous retrouvez une expression juive de la langue des Hébreux. Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Mot à mot, je serai qui je serai. » Ou, plus métriquement, « Que je sois qui je serai. » m'a envoyé vers vous. Bon, traduction dite de la Bible de Jérusalem. L'expression est rendue par « Je suis celui qui suis » dans la traduction due à Louis II et par « Je suis qui je serai » dans la Tob. Donc, si nous retrouvons des explications, peut-être vous dites « Ah, mais c'est un peu compliqué pour moi de tout saisir ça », mais on continue quand même. Qu'est-ce qui est important? C'est au moins d'être exposé à cette réalité du tétragramme. Et quand vous allez entendre parler parfois du tétragramme, vous allez savoir « Ah, ok, oui, je me souviens, c'est ça. » Donc, c'est important de grandir dans la connaissance. Et puis, même si on ne parlera pas de ça chaque jour de notre vie, au moins d'avoir une base comme ça de connaissance à ce niveau-là. Dieu, ok, le grand, je suis. Dans Exode 3, versets 14 à 15, il est écrit, « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Et là, qu'est-ce qui est important? On va voir maintenant Dieu le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Une des choses qu'on veut voir ici, Jésus est un avec le Père. Remarquez dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Remarquez, on a parlé là tantôt du « je suis » et le Jésus, ici, il parle, « avant qu'Abraham fût, je suis. » Donc, nous voyons que le Seigneur Jésus, il se présentait comme étant ce Dieu de la Bible. Dans Jean, chapitre 17, verset 21, il est écrit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Gloire à Dieu pour ça. Donc, on continue. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, oui, Jésus est un avec le Père. Et nous avons compris également que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Encore une fois, on comprend ici que Jésus est Dieu. Dans Matthieu 16, versets 16 et 17, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ici, Jésus, certainement, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. On s'arrête aujourd'hui à ce niveau-là concernant notre Dieu trinitaire. On va continuer dans les sessions qui vont suivre concernant les choses qu'on doit comprendre sur Dieu. Si vous dites, bien, je trouve ça un peu compliqué, bien, continuez à avancer avec nous et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez saisir des choses, le Seigneur va continuer à vous bénir et vous allez continuer à grandir et on va découvrir d'autres thèmes également que peut-être vous allez trouver un peu plus simples. Mais c'est important toutefois d'avoir cette bonne base afin d'être protégé des sectes qui circulent dans le monde, qui veulent des fois nous dérober de notre foi. Alors, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis dans votre marche avec le Seigneur.